Orient Presse, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque samedi, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie d'une consœur et de deux confrères. D'abord, Sophia Amara, journaliste indépendante en ligne de Beyrouth. Jérôme Bastion, notre correspondant, le correspondant de RFI à Istanbul. Et Abdallah Ben Ali, de la chaîne de télévision arabe Al Jazeera, ainsi que du service arabe de la Deutsche Welle.
Orient Presse sur RFI.
Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation dans l'actualité de la semaine dans la région. J'ai d'abord retenu cette crise entre Israël et la Turquie après la décision du gouvernement turc d'exclure Israël des manœuvres militaires aériennes qui étaient prévues à partir de lundi prochain dans le centre de la Turquie avec la participation de l'armée américaine. Jérôme Bastion, d'abord rappelez-nous comment est née cette crise entre les deux pays.
Bah écoutez, il y avait eu déjà deux séries de manœuvres militaires à plusieurs, hein, les Turcs, les Israéliens, les Américains, les Espagnols, et ce troisième volet, en quelque sorte, a été officiellement repoussé pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, mais qui ont tout de suite été interprétées en Israël comme une exclusion ou une mise de côté des forces israéliennes. Rappelons au passage que les Israéliens s'entraînent depuis des années déjà, depuis 96, et cet accord de coopération militaire signée avec la Turquie, ils s'entraînent dans le champ de l'Anatolie. Mais cette fois-ci, effectivement, les manœuvres baptisées Aigle d'Anatolie ont été repoussées tout de suite. Ça a été interprété comme un signe de défiance du gouvernement Erdogan envers Israël, parce que c'est vrai qu'il y a souvent eu des petites frictions entre les deux pays, mais depuis un an environ, la tension on est au bord de la crise, en fait, entre Turquie et Israël.
Abdallah Ben Ali, cette crise entre la Turquie et Israël, vous la datez de quand, vous ?
Moi, je pense qu'il s'agit d'une crise profonde qui va toucher ou touche déjà au socle stratégique des relations entre les deux pays. Et je pense qu'elle est dit, on peut les dater en quelque sorte de la dernière guerre en Irak, quand les Américains ont envahi l'Irak, quand l'État irakien a quasiment disparu. Je pense qu'il y a eu un ébranlement géostratégique dans la région à ce moment-là qui a touché un certain nombre de certitudes géostratégiques. La Turquie ne se sent plus menacée par le voisinage arabe. Donc, du coup, l'importance d'Israël a diminué.
Alors, voilà, Abdallah Ben Ali date la crise de la guerre en Irak, du début de la guerre en Irak. Sophia Amara, vous situez le départ de cette crise, de ce refroidissement, vous aussi, à partir de la guerre en Irak ou plus tard ?
Beaucoup plus tard, même si effectivement la guerre en Irak a joué un rôle important, on constate depuis Beyrouth que la situation entre la Turquie et Israël s'est beaucoup détériorée après la dernière guerre de Gaza. Vous vous rappelez de la position des autorités turques suite à ce conflit qui a été particulièrement violent. Et depuis, un net rapprochement s'est effectué entre Turcs et Arabes.
On va revenir précisément sur ce détail, mais je voulais simplement savoir si vous datiez ce refroidissement depuis l'élection d'Erdogan, depuis la guerre en Irak ou depuis Gaza précisément.
Ça remonte en fait à l'Irak, évidemment, mais la situation s'est aggravée après le conflit à Gaza, sans aucun doute.
Bien, alors dans le même temps, Ankara a annoncé de prochaines manœuvres militaires conjointes avec la Syrie, tandis que le Premier ministre turc Erdogan s'est rendu à Bagdad pour signer une série d'accords de coopération politique et économique avec l'administration irakienne. Alors, la question de fond, j'allais dire, la Turquie est-elle en train de réviser ses choix stratégiques dans la région, Jérôme Bastion?
Il est certain qu'effectivement, le gouvernement Erdogan, qui est maintenant au pouvoir depuis 7 ans, a passablement recentré ses relations diplomatiques avec ses voisins. Et effectivement, elle s'est largement ouverte, et ça tient certainement aussi à l'orientation un peu islamiste, conservatrice religieuse du Parti de la Justice et du Développement. Elle s'est recentrée sur une plus grande coopération avec l'ensemble des pays arabes, qui avant n'était pas le cas. Les Turcs étaient avant assez isolés dans la région et n'avaient que pour seul allié les Israéliens. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un froid avec les Israéliens et on voit un réchauffement avec les pays arabes. Mais c'est peut-être aussi deux choses qui ne sont pas forcément liées directement, parce qu'il faut rappeler encore une fois, effectivement, comme ma consœur de Beyrouth le disait, que la crise a passablement gagné en intensité depuis l'intervention plomb durci à Gaza, c'était en décembre-janvier dernier. Donc il y a deux choses, il y a un recadrage de la politique extérieure de la Turquie qui veut jouer un rôle dans la région, un rôle pacificateur, elle a des troupes au sud Liban, ne l'oublions pas, elle joue un rôle de médiation entre Syrie et Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens également. Donc il y a ce recadrage, ce recentrage sur le monde arabe, et il y a aussi, et ça c'est plutôt indépendant de sa propre volonté, il y a aussi l'aggravation de la situation entre les Israéliens et les Palestiniens, et surtout depuis plomb durci.
Abdallah Ben Ali, vous voyez les choses de la même manière ?
Moi, je pense, oui, certainement, certains éléments évoqués sont réels. Mais il faut dire qu'à mon avis, je pense que ce qui s'est passé est dû, contrairement aux explications courantes dans les médias qui disent que la Turquie, parce qu'elle est gouvernée par un parti islamiste ou conservateur, elle est en train de basculer dans une politique, à reprendre l'ancienne politique d'influence ottomane, reprendre son influence antérieure à la disparition du califat. Moi, je ne crois absolument pas à ça. Je ne crois pas du tout qu'Erdogan est un héritier ou se revendique comme calife ottoman. Et je ne pense pas qu'il a envie de reprendre cette politique-là. Je crois plutôt que c'est un homme réaliste qui cherche ses intérêts, les intérêts de ses pays. Et je pense qu'il a constaté que les intérêts économiques et commerciaux de la Turquie sont plutôt dans un renforcement des rapports avec le monde arabo-islamique, et il a constaté aussi que l'importance stratégique d'Israël en tant qu'allié régional a diminué sensiblement depuis l'effondrement de l'État irakien.
Vous êtes d'accord, Sophia Amara ?
Oui, tout à fait. Il y a une réelle politique turque qui va dans ce sens. Les Turcs ont évidemment tout intérêt à recentrer, ça s'est dit dans plusieurs, ou ça s'est lu dans plusieurs déclarations des autorités turques, à recentrer leur politique vers le monde arabe. De nombreux contrats ont été signés au Liban, en Syrie, en Égypte, entre les deux pays, et la Turquie est en train de se recentrer vers le monde arabe, parce que justement, l'intérêt de l'allié israélien a beaucoup diminué après l'effondrement de l'Irak.
Alors, la question palestinienne, on y revient toujours, hein, elle est au cœur de toutes les préoccupations de la région, n'est-elle pas revenue au premier plan des préoccupations turques ces dernières années, et surtout depuis l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, Jérôme Bastion ?
Elle a été depuis de longue date, hein, quand même, au centre des préoccupations de la Turquie. On a eu même peur à une époque, à l'époque de cette signature de l'accord de coopération militaire entre Ankara et Israël. On avait eu même eu peur que les Israéliens soient un peu oubliés dans cette affaire. En fait, pendant des années, c'est une politique très équilibrée qui a été menée par Ankara, et Ankara s'est beaucoup impliqué dans une médiation, dans une relation donc très équilibrée entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est aussi au moment de cette intervention l'an dernier, le sentiment de la part des Turcs que les Israéliens les avaient trahis, n'avaient pas prévenu, n'avaient pas annoncé à cet allié de première importance dans la région, ce sentiment de trahison donc a fait basculer un petit peu la politique étrangère de la Turquie sur ce conflit. La Turquie voudrait bien continuer à jouer un rôle entre les Israéliens et les Palestiniens, mais le fait est que les portes sont complètement fermées et qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour une médiation.
Abdallah Ben Ali.
Oui, il faut dire, c'est vrai que la Turquie elle a toujours prêté une grande attention au problème du Proche-Orient et notamment au conflit israélo-arabe. Elle ne pouvait pas le faire parce que c'est un État islamique, c'est un État qui fait partie intégrante de la région. Et c'est un conflit qui se déroule presque à ses frontières. Et il faut aussi que la sensibilité turque a été touchée à la fois par des événements, la cruauté de l'attaque israélienne, de l'offensive israélienne à Gaza, qui a suscité une indignation à travers le monde, non pas uniquement dans le monde islamique, mais en Europe, aux États-Unis et ailleurs, et ensuite par cette colonisation rampante du secteur arabe de Jérusalem, qui abrite le deuxième lieu sacré de l'islam.
Sophia Amara, sur la Turquie et la question palestinienne.
Oui, la Turquie a toujours eu une volonté de jouer un rôle de médiateur et de retrouver un rôle important au Proche-Orient, non seulement entre les Palestiniens et les Israéliens, mais on voit aujourd'hui le rôle qu'elle joue entre Damas et Tel Aviv. Cela étant dit, et comme le disait notre confrère à l'instant, il n'y a plus aucune place aujourd'hui pour la médiation turque entre Palestiniens et Israéliens à cause justement de cette réconciliation palestinienne entre Hamas et Fatah qui ne vient pas.
Alors vous, Sophia Amara, vous ne croyez pas non plus à cette volonté de la Turquie de se recentrer sur, j'allais dire, sur son histoire, sur son espace sous l'Empire ottoman.
Écoutez, il n'y a pas de volonté de refaire un califat moderne, un califat des Ottomans qui serait un petit peu le maître de la région du Proche-Orient. Mais cela étant dit, il y a une volonté certaine de la part des Turcs de recentrer sa politique et de jouer un rôle régional important dans une région arabe, sachant que les Turcs ne sont pas arabes. Et un exemple assez parlant de cette volonté et la création de la première grande chaîne turque en langue arabe diffusant sur tout le monde arabe à partir de novembre prochain, ça va être la CNN turque en arabe. Et pour avoir rencontré des responsables turcs à Istanbul et à Ankara, on peut dire que oui, il y a une volonté de retrouver ce rôle dans la région arabe. On ne peut tout de même pas parler malgré cela de califat du 21e siècle.
Jérôme Bastion, se recentrer de la Turquie sur le monde arabo-musulman n'est-il pas en contradiction avec cette volonté d'intégrer l'Union européenne ?
J'ai tendance à dire que c'est vrai qu'au premier abord, c'est un petit peu choquant et c'est un petit peu inquiétant pour les Européens. Mais en fait, ça joue plutôt en sa faveur. Parce que le fait que la Turquie fasse désormais preuve de maturité et d'ouverture vis-à-vis de ses voisins, tous, quels qu'ils soient, parce qu'il y a encore 15 ans, la Turquie n'était entourée que d'ennemis, bien la volonté aujourd'hui de la Turquie de faire la paix avec tous ses voisins ne peut que servir la cause de la Turquie dans l'Union Européenne comme un pays pacificateur ou en tout cas un pays qui sait bien cohabiter avec ses voisins et qui, comme l'ont dit mes deux confrères, ne cherche pas forcément, enfin jusqu'à preuve du contraire, ne cherche pas effectivement à restaurer un califat ou un empire ottoman.
Orient Presse sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Sophia Haddad, journaliste indépendante en poste au Liban, Abdallah Ben Ali de la chaîne de télévision arabe Al Jazeera et Jérôme Bastion, le correspondant de RFI en Turquie. À propos justement de la question palestinienne et de l'offensive israélienne de l'hiver dernier à Gaza, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine depuis jeudi le fameux rapport du juge Goldstone qui, je le rappelle, évoque les crimes de guerre, des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Qu'attendez-vous tous les trois de ce Conseil de l'ONU, Abdallah Ben Ali d'abord ?
À mon avis, il va aboutir certainement à une résolution qui risque d'avoir une majorité de 47 membres du Conseil qui va condamner le manque de coopération d'Israël, d'Iran, toutes les démarches d'enquête effectuées par le magistrat Goldstone. Ensuite, il va recommander au Conseil de sécurité de l'ONU de demander aux parties en conflit, à savoir Israël et le Hamas, de procéder à des enquêtes sérieuses sur ces abus commis pendant la guerre. Et dans les cas où il ne serait pas à mesure ou qu'il n'aurait pas la volonté de le faire, il va recommander au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale afin de procéder à des enquêtes ou éventuellement à des traductions en justice de personnalités ou des instances dont la responsabilité serait établie dans les abus commis pendant la guerre de Gaza. Je pense qu'il y a une troisième éventualité. Dans les cas où le Conseil de sécurité sera bloqué par un veto américain, je pense qu'à ce moment-là, le Conseil pourrait s'orienter vers l'Assemblée générale de l'ONU, dont les décisions sont certes symboliques, mais dont les travaux ou les décisions ne peuvent pas être bloquées par un veto américain.
Sophia Amara, sur cette réunion du Conseil des droits de l'homme à propos de l'offensive israélienne à Gaza.
Mais écoutez, ici au Liban, tout le monde craint évidemment un éventuel un nouveau veto américain. Si ce veto n'avait pas lieu, ce qui serait souhaitable, évidemment, au bout d'une certaine période, si les deux parties en conflit, à savoir le Hamas et Israël, ne mènent pas chacun de son côté d'enquête sérieuse, évidemment, on peut penser à un recours à la Cour internationale. Cela dit, ici au Liban, où évidemment de nombreuses résolutions de l'ONU ne sont toujours pas respectées ou n'ont pas été faites respecter par la force ou ni même par des sanctions à l'égard d'Israël, voisin du Liban, qui continue à occuper une petite partie du sud de ce pays, eh bien, la question ne se pose même pas. Ça n'est qu'une résolution de plus, une condamnation de plus, qui ne change rien au fond du problème, à savoir une occupation qui entraîne, selon l'appellation de certains, une résistance et qui laisse la région otage de ce cycle de la violence qui n'en finit pas.
Jérôme Bastiaume, une résolution de plus pour rien ?
Ben, on verra bien ce qu'elle donne, effectivement, mais ce que les Turcs en attendent, c'est effectivement qu'il y ait une condamnation explicite de ce que les Turcs eux-mêmes appelaient, et depuis très tôt, depuis très longtemps, de ce que les Turcs eux-mêmes appelaient un crime contre l'humanité, et on a même utilisé ici le mot un peu maladroit, de génocide. Les Turcs veulent absolument, effectivement, que leurs critiques très vives, les plus vives sans doute qui ont été entendues à l'époque de plomb durci, que leurs critiques soient en quelque sorte validées et reconnues par la communauté internationale. Les Turquies, on le disait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de médiation entre Israéliens et Palestiniens, les Turcs qui œuvrent aussi à une médiation entre Palestiniens, il ne faut pas l'oublier, le gouvernement et le Premier ministre notamment sont assez proches, et le ministre des Affaires étrangères, ne l'oublions pas, sont assez proches du Hamas, le Hamas dont le chef politique Khaled Meshal a été invité ici, presque officiellement. Les Turcs donc essayent aussi de pousser les Palestiniens à jouer le jeu.
Oui, justement, à ce propos, dans le camp palestinien, la réconciliation est encore loin d'être acquise, hein, puisque le Hamas refuse de signer l'accord de réconciliation avec le Fatah, qui était proposé par l'autre grand médiateur dans la région, je veux parler de l'Égypte. Comment vous expliquez les positions des uns et des autres dans cette affaire, Abdallah Ben Ali ?
Moi, je reproche personnellement à Hamas ce manque de volonté de progresser dans le sens d'une réconciliation, d'autant qu'il y a une véritable urgence au niveau palestinien global, parce que il y a, en Israël, il y a un gouvernement d'extrême droite, il y a une colonisation sans précédent, presque, de territoires arabes occupés, notamment en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Tout cela fait que le sens de responsabilité doit primer toutes les autres considérations politiciennes. Et moi, à mon avis, le fait que Hamas traîne le pas aujourd'hui est irresponsable en quelque sorte. C'est vrai que Mahmoud Abbas est discrédité. Il a été discrédité à plusieurs reprises. Il a été surtout discrédité par le comportement de l'autorité palestinienne à l'égard de ce rapport de Goldstone dont elle a demandé le rapport de vote il y a quelques semaines. Mais je pense aussi que toutes ces considérations doivent être dépassées au profit de la cause palestinienne qui se trouve dans une phase particulièrement cruciale, particulièrement périlleuse.
Sophia Amara, que vous inspire cet échec, encore énième échec dans des tentatives de réconciliation entre les deux frères ennemis palestiniens ?
Écoutez, évidemment, de nombreux observateurs considèrent que pour le Hamas, il ne s'agit qu'une question de pouvoir, de garder le pouvoir. C'est d'ailleurs les accusations qui ont été portées par le Fatah contre le Hamas après le rejet du plan de médiation égyptien. Cela dit, lorsqu'on y regarde, il y a une conscience chez le Hamas aussi bien que chez le Fatah de l'urgence de la situation. D'une part, la colonisation est galopante. Le gouvernement en place est un gouvernement de droite et de Foucault même. Par ailleurs, il y a des problèmes internes graves avec des risques de dérapage. Mahmoud Abbas a été discrédité, mon collègue le disait à l'instant, mais il y a chez le Hamas une volonté que ni les Égyptiens ni le Fatah n'ont su contourner, c'est de faire paraître dans ce plan du Caire le droit ou la reconnaissance de la nécessité pour les Palestiniens de continuer à résister ou de poursuivre la résistance contre l'occupation israélienne et ce problème est là. Et tant qu'il n'y a pas de résolution ou d'accord sur ce plan, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'aller de l'avant en ce qui concerne les négociations israélo-palestiniennes.
Jérôme Bastion, sur cette réconciliation qui ne vient pas, toujours pas, dans le camp palestinien, comment les choses sont vues à Istanbul?
Cela désespère effectivement les Turcs qui, comme je le disais, ont tenté et tentent toujours de rapprocher le Hamas et la faction, on va dire, officielle des Palestiniens. Mais c'est un constat d'échec. Il n'y a plus de contact. Il y a eu des contacts très étroits avec Khaled Meshal, notamment il y a quelques années, à l'époque où les choses allaient un tout petit peu mieux ou bien étaient moins pires. Mais aujourd'hui, force est de constater que même du côté des Turcs, que cette impartialité, cet aspect extérieur et neutre ne joue pas, ne fonctionne pas pour rapprocher les Palestiniens. Les Turcs s'arrachent les cheveux, en quelque sorte.
Alors, à propos de réconciliation, au Liban aussi, hein, aucune réconciliation en vue là-bas. Saad Hariri n'a toujours pas réussi à former de gouvernement et la tension monte à nouveau entre Israël et le Hezbollah. Sophia Amara, justement, vous êtes à Beyrouth. Y a-t-il un risque de nouveau dérapage?
Oui, oui, tout à fait, puisque comme vous le disiez à l'instant, le Liban est sans gouvernement depuis près de 4 mois, c'est-à-dire depuis les élections législatives de juin dernier. Ce nouveau blocage institutionnel, on se rappelle du blocage qui avait eu lieu pour nommer ou élire un président de la République. Donc ce blocage attise les tensions dans un pays qui fait déjà face à de nombreux problèmes sécuritaires, économiques, mais qui fait face également à des menaces israéliennes de plus en plus précises à cause de la montée en puissance à nouveau du Hezbollah et pour ce blocage. Hein. D'une part, la situation régionale étant ce qu'elle est, le problème palestinien, le dossier du nucléaire iranien, la question afghane, tout ça fait que le Liban étant un peu la caisse de résonance des conflits au Proche-Orient, ça a un impact direct sur le Liban, puisque le Liban est divisé entre plusieurs tendances, chacune appartenant ou étant ou pro-saoudienne ou pro-syrienne ou pro-égyptienne et ainsi de suite. Pas un impact direct sur la situation au Liban, et même le dernier sommet entre Syriens et Saoudiens n'a pas pu débloquer cette situation. Et par ailleurs, au niveau interne, il y a aujourd'hui un gros problème, c'est-à-dire que cette majorité qui déjà fait face à l'arsenal du Hezbollah qui pèse lourd sur la balance, eh bien cette majorité n'en est en réalité plus une, parce que la majorité a obtenu 71 voix aux dernières élections. Or, le retrait du leader historique druze, Walid Jumblatt, de la coalition anti-syrienne du 14 mars pour se recentrer vers le 8 mars fait qu'aujourd'hui, eh bien, la majorité n'a plus que 60 élu sur 128, puisque le druze a 11 députés, le leader druze a 11 députés. Donc, aujourd'hui, la majorité sait qu'elle n'en est plus une et a moins de poids vis-à-vis du Hezbollah et du CPL du général chrétien Michel Aoun, allié du Hezbollah, et donc craint de créer un gouvernement issu de la seule majorité qui n'en est plus une, selon l'opposition. Et tout le problème aujourd'hui est de savoir si, oui ou non, elle peut avoir recours à un gouvernement ou à la création d'un gouvernement issu de cette seule majorité. Et tout le problème aujourd'hui, c'est la déclaration ministérielle qui doit ou non appuyer le droit du Hezbollah à poursuivre la résistance contre Israël.
Bien.
C'est tout le problème aujourd'hui.
Oui, Abdallah Ben Ali, je vous voyais faire la grimace là. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le point de vue de Sophia Amara?
Non, il y a un petit détail sur lequel je ne suis pas tout à fait aussi certain que ma collègue. C'est celui du retrait du leader druze, Walid Jumblatt. C'est vrai qu'il a déclaré qu'il était en train de réfléchir, que la situation politique, géopolitique de la région dicte une certaine révision de positionnement politique interne au Liban. Mais de là à dire qu'il a carrément changé de camp, je ne suis pas absolument sûr, d'autant plus qu'il a donné des déclarations par la suite, annonçant qu'il serait toujours aux côtés du fils de son ami, à savoir le premier ministre désigné, Saad al-Hariri, qui est le fils d'Arafiq al-Hariri, qui était son ami de longue date. Mais je pense aussi que, vrai, au fond, il y a une crise due à la composition confessionnelle de la scène politique libanaise.
Oui, c'est l'éternel problème.
Ouais.
Il nous reste, hélas, peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot de l'Iran, quand même. Que vous inspire la déclaration d'Hillary Clinton cette semaine à Moscou, la secrétaire d'État américaine, qui assure que la question des sanctions n'est pas encore d'actualité dans le dossier nucléaire iranien, Jérôme Bastion?
Oui, c'est exactement sur cette ligne que se positionne la Turquie depuis le début, au moment où à droite à gauche dans le monde on parlait de sanctions, on menaçait même l'Iran de sanctions, la Turquie a toujours défendu une position beaucoup plus conciliante et prôné la négociation pour régler cette question sans recourir éventuellement à la force ou en tout cas aux menaces. Et bien avant Madame Clinton et bien avant les positions de la Russie, la Turquie parlait déjà à la fois avec les Iraniens et les Européens pour essayer de régler cette question. C'est encore une fois le jeu de la Turquie qui veut passer pour le grand pacificateur dans la région et pour se poser en médiateur incontournable, j'ai envie de dire, des crises du Proche et du Moyen-Orient.
Sophia Amara, sur l'affaire iranienne, comment les choses sont perçues, l'évolution de la diplomatie américaine en ce moment, comment elle est perçue à Beyrouth, rapidement?
Eh bien, depuis Beyrouth, on considère qu'il y a une marche arrière certaine après cette visite à Moscou. Et les deux parties qui se font face au Liban s'en réjouissent. Le 8 mars, mené par le Hezbollah, en est très satisfait puisque c'est un allié de l'Iran. Et de l'autre côté, vous avez la coalition du 14 mars qui souhaite justement que ce dossier soit un petit peu pacifié parce que tout problème avec l'Iran peut avoir une influence directe sur le Hezbollah et sa situation au niveau interne.
Peut-être un dernier mot sur cette question iranienne, Abdallah Ben Ali.
Nous, je pense qu'il s'agit effectivement que les Russes sont réussis à amener les Américains à une unité de ton sur la question iranienne, ce qui est important. Et je pense que aussi la position française, à travers le communiqué qui a été publié par l'Élysée à propos d'une communication téléphonique entre Obama et Sarkozy, va dans ce sens.
Voilà, ainsi s'achève Orient Presse. Merci à vous trois d'abord. Sophia Amara, qui est journaliste indépendante, qui était en ligne avec nous depuis Beyrouth. Jérôme Bastion, le correspondant de RFI à Istanbul. Et Abdallah Ben Ali, de la chaîne de télévision arabe Al Jazeera, qui nous a fait le plaisir de venir en direct dans ce studio. Prochain rendez-vous samedi prochain. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Laurence Noquet pour la technique. Rendez-vous donc, je vous le disais, samedi, même heure, même fréquence sur RFI.